Cinérama.
Cette nuit, notre plistron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à foutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste, les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour, nous sommes le mercredi 26 juin, c'est bientôt la fête du cinéma. Autant dire que bien, c'est l'occasion de rentrer dans une salle obscure. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour à tous.
Et aujourd'hui, eh bien, il y a des films qui sortent ce jour, des films qui sont déjà sortis, et puis des films qui vont sortir au mois d'août. Voilà, c'est un peu ça le sommaire de Cinérama. Alors, deux films aujourd'hui, hein, Marine.
Oui, alors moi je vais vous parler de The Bling Ring de Sofia Coppola, qui est déjà sorti il y a quelques temps, mais bon, on n'avait pas encore parlé ici, et de Man of Steel de Zack Snyder.
Et toi Manu, deux films aussi.
Deux films, oui. Donc l'un, Broken City, qui sort donc aujourd'hui, réalisé par l'un des frères Hughes, qui avait fait Fromel, Menace to Society, et puis Le Livre d'Elie. Et puis une sortie DVD estivale pour les gens qui veulent aller se baigner, Le Piranha de Joe Dante, qui sort donc dans une superbe édition en DVD et Blu-ray.
Film de 78. Et puis on écoutera une interview de Arnaud Despalières qui était présent la semaine dernière à Montpellier pour un film qui sort malheureusement qu'au mois d'août, mais comme il n'y aura pas Cinérama, eh bien on vous propose ça en primeur.
Qui êtes-vous?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Sur Divergence FM.
Il n'est jamais trop tard pour parler de The Bling Ring, le dernier film de Sofia Coppola encore en salle cette semaine et qui a fait l'ouverture d'un certain regard à Cannes. On se demande d'ailleurs pourquoi et de quel regard il s'agit, mais bon, j'y reviendrai un peu plus tard. L'histoire, basée sur des faits réels, raconte les cambriolages commis par une bande de lycéens de Beverly Hills qui ont réussi, il y a quelques années de cela, à pénétrer, pardon, je suis en pleine overdose de café, à pénétrer dans les villas de leurs stars préférées pour les mettre à sac.
Les filles, debout!
On sait.
C'est mon pote Marc.
Salut.
Salut, moi c'est Nikki. Elle c'est Sam.
Salut.
Oh merde, Paris Hilton. Hey, c'est Kirsten Dunst.
Je pense qu'elle voulait simplement vivre leur vie, avoir la vie dont tout le monde rêve.
Hey, I can be the answer. I'm ready to dance when the vampire.
Paris Hilton organise une grosse teuf à Vegas ce soir.
Où est-ce qu'elle habite? Par où on pourrait entrer?
Je suis pas trop chaud.
Je veux aller chez Paris. J'ai envie d'une robe.
I was in a 2-on-2 on the uptown.
Énorme.
You know summer, don't you? Bah,
c'est ça. Et cette robe, elle est très jolie. C'est nouveau.
On avait tellement de trucs fashion.
Hey, les filles.
Trop mignon comme ça.
J'entends des hélicoptères.
On est à LA. Arrête un peu de faire ta peureuse.
Tu me stresses, c'est pas cool.
Merde, ils sont tirés.
La police enquête sur les liens qui existeraient entre les différents cambriolages d'Hollywood.
Les États-Unis ont une fascination perverse pour les Bonnie and Clyde.
Tout ça se résume à une série de mauvais choix. Moi, je leur faisais confiance.
Tu peux pas prendre le chien.
Mais ce chien m'adore.
Je crois profondément à la notion de karma. Ces événements ne sont pas arrivés par hasard. Ça a été une leçon essentielle pour moi. Je me suis ouverte à une plus grande spiritualité et j'ai mûri. Pourquoi pas devenir chef d'État?
Vous avez parlé à certaines des victimes?
J'ai parlé à toutes les victimes.
Ah oui? Qu'est-ce qu'elle a dit, Lindsay?
Devant la bande-annonce, on ne peut s'empêcher de penser à celle tout aussi tapageuse et aguicheuse de Spring Breakers, parallèle qui se poursuit au vu du sujet et de l'engouement des deux réals pour l'adolescence et ses dérives. À la différence que le film de Harmony Korine s'avère bien plus dense et intense lorsqu'on le découvre dans son intégralité, tandis que le film de Sofia Coppola demeurera de bout en bout conforme à ce que la bande-annonce laisse paraître. Pardon.
Alors, déception. Peut-être y avoir un malaise en direct. Restez à l'écoute de Divergence.
Déception donc, puisque le thème de l'adolescence, très prisé par la réelle, tout au long de sa filmographie, ne donne pas lieu ici à de véritables interrogations, pas plus, qui ne permet de beaux moments de cinéma. Les filles du gang étaient en réalité un groupe de junkies et de cas sociaux, remplacés dans le film par des ersatz de Gossip Girl, gavés de magazines People et de séries télé, présentés sans la moindre épaisseur, comme des personnages odieux et creux. Seul l'unique garçon de la bande tire son épingle du jeu, puisqu'il bénéficiait d'un peu plus d'attention de la part des scénaristes et du jeu d'un comédien très prometteur. Rien de particulier à signaler du côté de Emma Watson, présenté comme la révélation à contre-emploi du film, mais qui reste cantonné à l'état de second rôle, l'actrice en faisant des tonnes pour faire oublier la Hermione de Harry Potter, comme on le sait. Le fait de transposer les héroïnes dans un milieu aisé, parade de Coppola, pour dépeindre une classe sociale qu'elle connaît davantage, permet de contourner toute réflexion sociale et d'éviter des questionnements qui auraient pourtant donné de la matière au film. Or, la cinéaste filme ses personnages en retrait et sans jugement aucun, alors qu'elle savait si bien capter l'intimité et l'introspection dans ses précédents films. Ici, pas l'ombre d'une analyse de la part de la réalisatrice, puisqu'elle se pose à distance des dévergondages de cette génération obsédée par le culte de l'apparence et de l'argent. Sofia Coppola semble même avoir perdu son regard d'auteur, le style onirique de ses premiers films étant tout bonnement écrasé ici par une bande-son top 50 et une réalisation clipesque, sa caméra ne prenant plaisir qu'à parcourir les rangées de sacs griffés et de chaussures avec une répétition hypnotique. Et c'est à peine si on écope d'une fin teintée d'ironie, puisque le gang finira par devenir aussi célèbre que les stars qu'il a cambriolées. La célébrité, précisons-le, étant définie ici comme le fait de passer dans des shows télé et de recevoir des centaines d'invitations Facebook. Petite parade finale sur les tourments d'une jeunesse perdue mais bien sapée.
Merci Marine, j'espère que tu seras en bonne forme pour parler de Superman tout à l'heure, hein, plus tard dans l'émission.
J'espère qu'il me viendra en aide.
David Hasselhoff est tout prêt, hein, il est prêt à intervenir si jamais. Et oui, c'est une référence. C'est une référence comme ça.
Je pensais qu'il y avait un nouveau en fait dans l'équipe de la radio.
Ça m'a fait tout de suite penser à Alerte à Malibu, enfin voilà, je ne sais pas pourquoi. C'est Cinérama qui continue.
Cinérama sur Divergence FM.
Et c'est un film un peu différent, hein, puisque c'est Michael Collas d'Arnaud Despalières. Alors, un film qui va sortir le 14 août. C'est un film avec Mads Mikkelsen. Alors, son actualité, c'est quand même qu'il était présenté à Cannes, qu'il n'a rien remporté, par contre. Hein. Enfin, puis c'est un peu normal, parce que Mads Mikkelsen avait déjà remporté le prix du meilleur acteur. C'était l'année d'avant avec La Chasse. Dans ce film, on retrouve aussi des petites apparitions, Denis Lavant, Sergi Lopez. Et juste pour planter le décor, hein, on est au XVIe siècle, dans les Cévennes. Et puis, il y a un marchand de chevaux, c'est Michael Collas, qui mène une vie plutôt familiale et prospère. Il a l'air plutôt content. Mais il est victime de l'injustice d'un seigneur et cet homme pieux et intègre va lever une armée de paysans et va mettre le feu un peu partout et va aller jusqu'au château. C'est une nouvelle écrite par Heinrich von Kleist en 1810 que Arnaud Despalières a transposée au XVIe siècle dans les Cévennes, parce qu'au départ elle se passe en Allemagne. Voilà, on retrouve tout le style d'Arnaud Despalières. Moi, c'est un type que j'adore écouter. Alors, il y avait plus d'une heure d'interview. J'en ai conservé que cette petite minute. Il va nous parler de Michael Collas.
Partons du principe que, dans sa très large majorité, quand le cinéma se confronte à l'époque, aux films historiques, aux films dits en costume, quelquefois on dit des films en décor ou des films en costume, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et il y a une attention exagérée à la question du décor et du costume qui fait que la plupart du temps, ces films s'occupent un peu trop du décor et du costume, et on va dire de la beauté en général. Voilà. Et pourquoi ? Et donc j'ai pris le pari inverse. Et je me suis dit... Parce que aussi tout allait dans la même direction. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas intéressant. Cette histoire, elle ne m'intéresse pas parce qu'elle se passe au XVIe siècle. Elle m'intéresse parce qu'elle est actuelle. Donc je ne vais pas dépenser de l'argent et de l'énergie à porter le regard du spectateur sur la chose qui n'est pas la chose qui m'intéresse. La chose qui m'intéresse, c'est quoi ? C'est l'histoire qui est racontée, c'est le personnage, c'est ses hésitations, c'est les sentiments de tous les autres et les relations avec tous les autres personnages. Et pour qu'on ait accès à ça, alors qu'on aurait tendance à être attiré par l'exotisme du rapport à ce que c'est que la représentation de gens qui ne vivaient pas à notre époque, il faut être encore plus discret sur tout ce qui n'est pas ce que je viens de dire, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas les personnages, l'histoire, leurs émotions et leurs... Et donc, comme une boutade, j'ai dit à la personne avec qui je travaillais pour les costumes et à la personne avec qui je travaillais pour les décors, je leur ai dit, si vous avez un César un jour pour le travail que vous faites sur ce film, c'est que vous aurez mal travaillé. Faisons comme si on tournait un documentaire au XVIe siècle. Le spectateur, évidemment, il y a une entrée toujours dans un film. Le spectateur entre dans le film, il y a un certain temps, et au bout de 5 minutes, je veux qu'il arrête de penser qu'il est au XVIe siècle. Je veux qu'il se sente au présent, et qu'il se sente au présent son corps physiquement au présent de ce qu'il se raconte. Je veux qu'il sente le vent, je veux qu'il sente les insectes le frôler, je veux qu'il sente la chaleur du soleil et qu'il soit physiquement embarqué dans cette histoire avec nous, dans le présent de cette histoire, pendant le temps du film. Comment dire, la gestion du temps dans un film, c'est une gestion, c'est une chose très diffuse. Elle a lieu, elle commence au moment où on écrit, au moment où on imagine les scènes, elle se continue au moment où on travaille avec les acteurs, et elle se fige, elle se construit, elle se fige au montage. Comment un père parle à sa fille à la Renaissance, au XVIe siècle? Est-ce qu'on va dire, est-ce qu'elle va dire papa? Est-ce qu'elle va dire tous ces petits détails? Comment elle le regarde? Comment il la traite physiquement? Est-ce qu'il est tendre ou est-ce qu'il n'est pas tendre? Comment un homme et une femme font l'amour? Nous, on a des représentations qui sont nos représentations contemporaines. Je ne dis pas que j'ai trouvé, c'est une proposition qui n'est pas scientifique. Et on s'est attardé beaucoup plus dans la manière dans ce qui nous intéressait d'aller chercher chez les historiens, beaucoup plus aux petites choses du quotidien, comment on mange, donc ce sont des choses un peu invisibles, mais qui diffusent dans le film, comment les gens dialoguent, comment un dialogue se construit. Par exemple, on s'est dit, on a lu un historien qui nous disait, on oublie, mais depuis Descartes, depuis la rationalité dont on oublie qu'elle n'a pas toujours été, qui vient avec Descartes, on est très rationnel dans nos discussions, dans la façon dont les causes et les effets s'enchaînent, voilà, quand on discute. Avant, c'était beaucoup plus désordonné, c'était beaucoup plus abrupt. Et ce sont des historiens qui le disent. Ils le disent en fonction de la façon dont étaient écrits les farces, dont étaient rédigés des textes intimes ou des lettres, ou dont même peut-être il y a dans certains procès le récit d'un dialogue entre un plaignant, et etc. Donc on voit que la manière de parler n'est pas la même. Et on a essayé. Voilà, c'est plus à l'intérieur de ces choses-là qu'on a cherché à retrouver. Pas retrouver ce que c'était, mais donner la sensation que c'était un autre temps. Voilà. Et que donc, il y a des petites choses qui font que ça n'est pas pareil qu'aujourd'hui. Et pour ça, il faut prendre le temps. Et il faut prendre le temps de s'installer dans quelque chose. Je peux pas aller à toute vitesse pour raconter cette chose-là. Puisque le projet, c'est de raconter une histoire. Mais pour moi, le projet, c'est beaucoup plus de faire vivre une expérience physique au spectateur.
Je cherche mes chevaux, Seigneur. Tes chevaux de sel, noir, qui étaient chez vous en garantie.
Ils sont à l'écurie. Je viens de les voir. Fais toute une histoire parce qu'ils sont sales. On les a fait travailler.
Ce sont pas mes chevaux. Je vous ai laissé deux bêtes magnifiques, bien nourries, en bonne santé. Je veux mes chevaux comme ils étaient.
Accepte l'idée que ça se passe au XVIe siècle. Comment est-ce qu'on représente le XVIe siècle? Au tout départ, il y a deux solutions. C'est soit on fait le Seigneur des Anneaux, on trouve un budget pour faire ça et on fabrique totalement ce qu'on n'a pas sous la main. Soit on ne souhaite pas faire ça, soit parce qu'on ne le peut pas, soit parce qu'on ne le veut pas. Et on dit, où est-ce que je peux tourner une histoire comme celle-là? Le premier geste, la première pensée que j'ai eue, et qui était une pensée pas uniquement pratique, ça a été « c'est les montagnes ». Alors que, à l'origine, cette histoire se passe en Allemagne, dans ce qui est aujourd'hui la banlieue de Berlin. Donc c'est pas du tout les mêmes paysages, ça ressemble presque à de la Normandie. Enfin, c'est très plat, c'est très vert, c'est un paysage très, très lourd, très riche, donc rien à voir. Mais on décide, je me dis, je vois les montagnes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de mieux préservé géographiquement de toute pollution contemporaine que la montagne. Mais il n'y a pas que ça. D'abord, ça se prêtait aussi bien à l'accident et à la guérilla, et à la bataille, et aux cachettes, et à une petite troupe cachée. Et surtout, et ça c'est rétrospectivement que je peux le dire, si je me pose la question quel paysage exprime le mieux le personnage Michael Colas, c'est la montagne. C'est son visage c'est de la montagne. Hein, c'est la beauté de la montagne, la rudesse et l'austérité de la montagne. Voilà.
Seigneur, la princesse ne tente plus les privilèges de pillage. Vous vous êtes moqué de moi. Maintenant, je veux mes chevaux. J'irai en justice, seigneur.
Le réalisateur de Disney, Mon beau pays natal, de Adieu, de Parc, et donc son nouveau film, Michael Colas, qui sortira seulement le 14 août. C'était Arnaud Despalières qui a une vision du cinéma que moi, j'apprécie particulièrement. Alors, ce n'est pas un film facile, Marine. Hein, on l'a vu en projection presse la semaine dernière.
C'est assez austère et assez soporifique aussi, quand même, il faut le dire.
Alors, bon, toi, tu rajoutes soporifique, austère, je garde.
Bah après, il y a Mads Mikkelsen qui est quand même extrêmement charismatique, comme toujours, comme dans chacun de ses rôles. Et je n'ose même pas imaginez qu'est-ce que ça aurait été si ça avait été un autre comédien à sa place, quoi. Je pense que là, le film aurait vraiment été très difficile à regarder du début à la fin.
En tout cas, plastiquement, il y a quelque chose. Alors après, on n'a pas parlé aussi, j'ai pas parlé de sa vision de la lumière. En fait, il y a beaucoup de pénombre. Il y a notamment une attaque, une attaque du château qui est filmée dans la pénombre avec les assaillants qui ont autant peur que ceux qui se font tuer dans cette expédition. Quand il fait beau, la lumière est éclatante. Enfin voilà, il y a quelque chose il y a un traitement qui est très très bon dans ce film. Après, l'austérité vient aussi du thème, c'est le thème de l'injustice, c'est aussi le début du protestantisme.
Peut-être voilà. Aussi du manque de moyens, enfin, je suis pas sûr que la scène qui soit entièrement tournée dans la pénombre, ce soit vraiment un choix artistique.
Si,
c'est peut-être
Marine.
Aussi parce que les décors sont un petit peu pauvres et qu'il n'y a pas assez.
Alors c'est volontaire puisqu'il l'a dit en début d'interview que tu n'as pas écouté, mais Arnaud Despalières.
Non, tu me parlais puisque tu me disais que
Arnaud Despalières a bien dit qu'il voulait pas des décors justement à genre super production. On fait très attention à refaire des décors et à ce que ce soit pimpant, joli. Non, il voulait effectivement, mais ce que tu as dit quand tu es sorti de la projection, ils sont mal habillés, ils sont mal sapés. Voilà, bon, voilà. Une fois que c'est dit, si tu as dit ça. Si, mais c'était très bien parce que c'est effectivement ça qu'il voulait. Enfin voilà, on sait, on est projeté vite fait dans ce monde-là et on n'y pense plus. C'est ce qu'il disait dans l'interview de tout à l'heure. En tout cas, voilà, je vous le recommande, Michael Colas. Donc le 14 août, ce sera sans doute au Diagonale.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie. Hein.
Sur Divergence FM.
Et on continue avec Man of Steel. Alors, comme on l'a compris depuis quelques années maintenant, Hollywood n'aura plus aucun scrupule à reprendre éternellement les mêmes histoires de super-héros. On aura à peine eu le temps d'en finir avec le Spider-Man de Sam Raimi, qu'une nouvelle trilogie autour de l'homme araignée est mise en place. De même que le public, encore sous le choc du mythe de Batman revisité par Nolan, se voit annoncer le comeback de Bruce Wayne très prochainement sur les écrans. Les spectateurs visés par le genre étant surtout les plus jeunes, l'industrie du cinéma part du principe qu'il y aura un roulement suffisant pour que les personnages de comics soient réinventés environ tous les 7 ans. La preuve encore donc avec ce Man of Steel, énième variation autour du mythe de Superman. Pour ne pas dire comme le veut le jargon geek, énième reboot, exercice qui consiste à reprendre une histoire bien connue depuis ses origines au lieu d'en réaliser une suite. L'histoire sera donc recentrée cette fois sur les origines extraterrestres du héros, envoyé sur Terre lors de la destruction de sa planète Krypton et qui décide d'œuvrer dans l'ombre, usant de ses pouvoirs dans l'anonymat le plus total, jusqu'au jour où le méchant Zord revient le chercher.
Je suis le général Zod. J'ai traversé un océan d'étoiles pour atteindre la Terre. Votre planète abrite un de mes concitoyens. Il doit avoir votre apparence, mais il n'est pas l'un des vôtres. À ceux qui pourraient savoir où il se trouve actuellement, vous tenez le destin de votre planète entre vos mains. À Kal-El, je dis ceci. Rends-toi dans les 24 heures ou regarde ce monde en subir les conséquences.
«
n'y aura pas. Pour chaque humain que tu sauveras, nous en éliminerons 1 million.
Je refuse de les trahir. C'est déjà fait.
Nous avons donc fait appel pour cette réécriture au fameux Christopher Nolan qui était censé réaliser une version du scénario plus sombre et à un comédien pour une fois sorti de la puberté, ce qui est quand même assez rare, mais qui s'avérera relativement limité à la faute à des dialogues anémiques, son jeu restant cantonné à un froncement de sourcils perpétuel. Très charismatique, il est vrai, mais ça ne vaut pas un Oscar. Côté réal, bien que l'on sente la patte virile de Zack Snyder, dépêché à la mise en scène, on dénote une certaine lenteur plutôt ennuyeuse lors de la première moitié, relayé par un très fatigant déluge d'effets pyrotechniques dans la seconde partie, le tout accompagné d'une musique martiale et de bruitages assourdissants. Autant vous dire que j'étais plus au calme devant L'Inconnu du Lac. Côté distribution, on déplorera une Lois Lane assez faible en sex-appeal, interprétée par une Amy Adams qui fait le job sans prétention, Michael Shannon qui s'avère être un choix judicieux pour le méchant ténébreux, et on relèvera que Man of Steel quand même a au moins le mérite de ressusciter Russell Crowe, Laurence Fishburne et Kevin Costner. Bon, c'est pas forcément sûr que ce soit une bonne idée, bon. Mais c'est comme ça.
Bah, Kevin Costner.
Rien de révolutionnaire à l'arrivée. On ne tient pas là un Dark Knight pour la profondeur, un Kick-Ass pour l'humour, ni un Chronicle niveau réflexion. Mais les fans du genre seront sûrement satisfaits de cette impressionnante mise en image et de l'incarnation très christique de Superman. Néanmoins, eh bien, quelques questions subsistent. Pourquoi la fille tombe-t-elle toujours amoureuse de celui qui la sauve ? Pourquoi le costume qui attendait Superman lorsqu'il aurait grandi était-il déjà parfaitement adapté à ses mensurations ? Pourquoi a-t-il perdu son slip ? Et surtout, pourquoi est-ce que les extraterrestres envahissent toujours la planète en commençant par Manhattan ? Je sais pas, ils ont pas dû lire l'article dans le New York Times qui disait que Montpellier était la ville à visiter. Ils commencent toujours par le même endroit, quoi. Voilà.
N'oublions pas que Superman n'est pas vraiment un super-héros, c'est un extraterrestre en fait.
Oui, en fait, tous les gens sont comme lui sur sa planète.
Sur Krypton.
Donc je pense qu'ils sont tous aussi bien gaulés. Putain, sympa en fait.
Ils sont tous en moule burnée, oui.
Waouh.
Tout à fait. Donc Man of Steel, évidemment, passe dans tous les cinémas multiplex.
Oui, voilà. au Gaumont Comédie, si vous voulez voir en version originale.
Très bien.
Cinérama. Cinérama. Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Des petits poissons méchants maintenant.
Oui, et puis un budget beaucoup plus réduit, hein, environ 700 000 $.
De l'époque.
De l'époque. Donc l'idée de Piranha part de Roger Corman, producteur opportuniste et un réalisateur stakhanoviste. C'est moins qu'on puisse dire puisqu'il a produit plus de 400 films et réalisé une cinquantaine de films. Donc il souhaite profiter alors du succès planétaire des Dents de la Mer et achète un script de deux illustres inconnus qu'il trouve au départ très très mauvais. Et si Corman trouve un scénario pourri, on peut vraiment lui faire confiance. John Sayle, auteur, cinéaste, futur cinéaste indépendant, qui on va devoir l'excellent Lone Star, je ne sais pas si vous l'avez vu, il réécrit le script en injectant une bonne dose de second degré et un sous-texte politique à tendance écolo. Et Joe Dante arrive donc sur le projet. Au départ, il n'était pas spécialement intéressé, mais en relisant le scénar, donc, il réalise son premier long métrage officiel. Donc budget doté d'un budget de 750 000 $, ce qui fait malgré tout beaucoup pour du Corman, mais peu comparé à la série des Dents de la Mer. Piranha est, malgré des contraintes inhérentes à ce type de projet, un modèle du genre. Joe Dante s'adjoint donc les services d'un casting hors pair, notamment l'icône du cinéma gothique Barbara Steele, qui fait une petite apparition mémorable en scientifique. L'histoire, simple et efficace, reprend en fait la trame narrative du film de Spielberg. Hein, une horde de piranhas mutants conçue lors de la guerre du Vietnam a été accidentellement déversée dans une rivière fréquentée par de nombreux baigneurs. Le film s'ouvre d'ailleurs sur un couple venu faire trempette à leurs frais dans un grand bassin infesté de ces petites bestioles carnassières. La séquence est un pastiche réussi du prologue des Dents de la Mer. Conscient des limites d'un tel film, Joe Dante joue en fait la carte de la parodie et truffe son film de référence au cinéma fantastique des années 50, dont un joli hommage à Ray Harryhausen, qui était le maître des effets spéciaux, décédé d'ailleurs cette année, au mois d'avril je crois. Voilà, donc il ne se limite pas d'ailleurs à ce côté potache et cinéphile. Le futur réalisateur d'Hurlement n'hésite pas à brocarder les politiciens et les militaires, vraiment présentés comme des abrutis, soit bornés, soit cupides. Donc devinez le partage des rôles, c'est assez facile. Donc cette dimension gentiment corrosive traversera toute l'œuvre à venir de Joe Dante, qui n'hésitera jamais à afficher son idéologie dans des films destinés en apparence à toute la famille. Voilà, Piranha, enfin, au final, c'est une série B patente, réalisée avec un vrai sens de l'économie, de l'efficacité, et fait rare dans ce type de production fantastique, on peut dire de bas de gamme, tous les interprètes sont vraiment convaincants, ce qui est quand même pas...
Tout le temps le cas.
Pas tout le temps le cas, voire assez rarement. Surtout aujourd'hui, quand on voit l'état de décrépitude de ce qu'on peut appeler la série B, voire Z. Mmh. Voilà, le succès de Piranha ne sera pas sans suite, puisque Steven Spielberg a remarqué son film. Et le Piranha devait d'ailleurs être bloqué, puisqu'il était considéré comme un plagiat des Dents de la Mer 2. Et c'est Spielberg qui a autorisé la sortie du film aux États-Unis. Et quelques années plus tard, il se rappellera de Joe Dante, puisqu'il lui proposera... Gremlins, à qui il confiera donc la réalisation. Mmh. Voilà, enfin, Piranha, c'est vraiment une chouette petite série B.
Oui, et puis même la reprise. Hein,
Ah bah, Alexandre Aja, il est formidable.
Voilà. Ouais. Enfin, très second degré, très... Voilà.
Très second degré, très gore et très
gore, ouais. Aussi, ouais. Et Spring Breaker.
Voilà.
Ben voilà, on arrive vers la fin. Une dernière petite chronique d'un film que tu as vu il y a 2 mois.
Cinérama sur Divergence FM.
Oui, Broken City, donc, qui sort aujourd'hui. Alors, c'est l'histoire de Bill Taggart, c'est un ancien flic qui a démissionné suite à une affaire qui a mal tourné. Il s'est reconverti en détective privé, mais les affaires ne marchent pas trop. Jusqu'au jour où l'homme le plus puissant de New York, le maire, Russell Crowe, donc retour fracassant de Russell Crowe, il lui demande d'enquêter sur sa femme qu'il soupçonne d'avoir un amant. Bon. Broken City commence donc comme un film noir sur fond d'adultère, avec femme fatale, mari pourri et amant potentiel. Et en fait, la voie chandlérienne, empruntée dans un premier temps, laisse rapidement place à un thriller politique sur fond de magouille et machination. Alain Huck, qui officie ici sans son frangin Albert, marche sur les traces de Sidney Lumet, mais il s'embourbe vite dans un discours en fait assez convenu sur la corruption des élites. Le côté tous pourris affiche aussi des relents de populisme, assez loin de la finesse et de la subversion de l'auteur de Serpico. Sidney Lumet était autrement plus perspicace quand il s'agissait d'analyser les rouages du système politique. Bon, pour conclure, Broken City, c'est un bon polar simpliste, plutôt efficace dans sa forme. Dans ses meilleurs moments, le réalisateur essaie de prendre le pouls d'une ville ultra cinégénique, c'est New York, et il renoue avec, on va dire, le cinéma paranoïaque urbain, enfin les polars urbains des années 70-80. Alors, Russell Crowe, ben, comme je le disais, il incarne avec conviction un maire prêt à toutes les bassesses pour se faire réélire. Et puis, en détective ingénu, Mark Wahlberg, il semble se désintéresser d'un projet qu'il a pourtant coproduit. Ah. Enfin, je ne sais pas, je l'ai trouvé assez fadasse. Mmh. Enfin, il est quand même loin le temps où les frères Hughes réalisaient un film comme Menace to Society, qui me semblait plus subversif, pour le coup.
En tout cas, c'est genre sorti aujourd'hui et il n'y a pas Kevin Costner dedans.
Cette non. Okay. Alors, je ne l'ai pas vu.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes.
Et on termine avec l'agenda demain soir au Diagonale à 18h. C'est Hippolyte Baliardo de Katia Martin Maresco. C'est un documentaire sur le monde gitan et c'est l'aglo qui régale. Hein, c'est une entrée libre. Ensuite, on peut parler d'une chose qui n'a rien à voir puisque c'est l'avant-première de World War Z. En VO sous-titré 3D, eh oui, au Gaumont Comédie et même Multiplex, et puis aussi en VF au Multiplex, c'est à 20h30, et c'est le dernier film avec Brad Pitt, un gros blockbuster. Ensuite, voilà, oui, ça c'est aussi assez loin, samedi 6 et dimanche 7 juillet, c'est à Beaucaire, c'est le festival du cinéma avec Léla Bekhti, qui sera invitée d'honneur pendant tout le week-end, donc voilà, si vous voulez voir Léla Bekhti, ce sera tout à fait possible, et n'hésitez pas aussi à participer à la fête du cinéma, puisque ce sont des places qui sont beaucoup moins chères, du 30 juin au mercredi 3 juillet, et c'est à peu près dans tous les cinémas, même le Diago s'y est mis, je crois, cette année.
Mais tous les ans, Diago ?
Ah, ça n'a pas tout le temps le cas, je crois.
C'est le printemps, en fait.
C'est le printemps qui faisait pas, mais le fait du cinéma.
Et c'est World War Z.
Ah, pas Z ? Bah, c'est bien d'avoir mis Z dans le titre.
Oui, mais c'est Z en anglais.
Ah, Z.
On prononce World War Z, quoi. C'est soit on prononce à la française, soit à l'américaine.
World War Z.
Merci.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
C'est peut-être la dernière de la saison de Cinérama. Suspense. À suivre.
À suivre, l'émission 24 notes secondes sera consacrée cette semaine à la musique du parrain.
Et on remercie.
La semaine prochaine, peut-être?
Oui, oui.
Ou à celle d'après?
Celle d'après ou la rentrée.
On remercie Bruno et François à la technique.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.